Bonjour chère auditrice, je suis Macha Menu.
Et je suis Louis Duruflet, et bienvenue dans notre podcast Matrimoine.
Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire.
Ensemble, nous découvrirons des personnes qui témoignent de la mémoire des femmes et nous participons ainsi à ce grand travail de transmission.
Nous vous avons présenté la semaine dernière une version écourtée, montée et accessible de l'entretien avec Jeanne Champagne. Aujourd'hui, c'est l'entretien complet que nous vous présentons. Bonne écoute.
Je m'appelle Jeanne Champagne. Je suis originaire du Berry. Je suis née dans une école, non loin de chez George Sand. Je dis ça parce que c'est une écrivaine et une femme libre qui a beaucoup marqué mon parcours. Voilà, j'ai découvert le théâtre à la Maison de la Culture de Bourges quand j'étais adolescente à travers une œuvre de Shakespeare mise en scène par Gabriel Monet qui s'appelait La Tempête. Donc ce que je dis souvent, c'est que la tempête était sur le plateau, mais la tempête a eu lieu en moi. Quelque chose se passait que je ne connaissais pas du tout. Et donc c'est réellement grâce à la décentralisation dramatique que j'ai attrapé ce virus du théâtre. Voilà. Ensuite, je suis venue à Paris. Alors là, j'appelle ça les années de formation. J'ai pu rencontrer différentes personnes qui ont été des guides. Réellement, c'est le mot, il n'y en a pas d'autres. Pierre Gaudibert, en premier, qui m'a aidé à mettre des mots, qui dirigeait l'Arc à cette époque-là et qui m'a aidé à mettre des mots, je dirais, sur le rôle de l'art, le rôle possible de l'art, c'est-à-dire, ça c'était très très important, parce que j'étais quelqu'un de très révolté, et donc en tant qu'artiste, parce qu'à cette époque-là on voulait être artiste, c'était quand même les années 70, on pouvait quand même avoir un rôle social et un rôle politique. Donc ça, c'est pour moi très, très important. Et c'est vraiment grâce à Pierre Gaudibert que j'ai compris beaucoup de choses. Ensuite, je suis allée en stage chez Roger Planchon, au TNP. Donc là, pareil, je découvre beaucoup de choses. J'étais en ce qu'on appelle en formation, c'est là où j'ai rencontré Gaudibert, donc en formation à la TAC, Association Technique de l'Action Culturelle. Et je suis allée donc en stage au Théâtre National Populaire chez Roger Planchon. Et là, bien sûr, j'ai découvert vraiment ce qu'était le théâtre avec Roger Planchon et puis Patrice Chéreau. Voilà, donc c'était vraiment des grandes personnalités. Parallèlement à tout cela, j'ai suivi les cours d'Antoine Vitesse au conservatoire. Et en même temps que les cours au conservatoire, j'étais aussi à ce qu'on appelait à l'époque l'Institut d'études théâtrales, qui est maintenant Paris 3, où il y avait quelqu'un qui m'a vraiment, une femme extraordinaire, qui m'a appris à lire le théâtre, c'est-à-dire à comprendre comment ça fonctionne, le théâtre, à partir d'un texte. C'était Anne Huberfeld. Et il y avait également Jacques Lassalle, qui était prof là-bas. Donc des noms, je cite ces noms parce que, je veux dire, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont aidé à comprendre qui j'étais et ce que je souhaitais devenir, peut-être. Voilà. Et les années de formation, pour moi, il y a eu un premier socle dans la petite école dans le Berry. Ça, c'est le premier socle que j'appelle de la République. Mais ensuite, après, il y a ce socle très important de la décentralisation artistique et culturelle qui, là, est très, très important pour pouvoir poursuivre. Voilà.
Ça marche. Et si vous deviez décrire assez rapidement qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous faites concrètement, vous diriez quoi ? Assez simplement. Voilà.
Alors, je mets en scène des textes, hein, qui me semble essentielle, qui pour moi sont essentielles, qui parlent du monde aujourd'hui, au présent. Ça, c'est très très important. Le théâtre, c'est vraiment le présent. Et c'est vraiment très très important pour moi de parler à travers des textes de grandes écrivaines, de parler au présent, aux jeunes filles et aux jeunes gens et, et au public aujourd'hui.
Pourquoi c'est important pour vous ?
Ah, mais parce que je trouve que le théâtre, justement, c'est ça que j'ai compris en chemin. Hein, je n'ai pas compris tout de suite, mais a un rôle social et politique très, très important. Très important. C'est une sorte de caisse de résonance du monde. Et c'est formidable de pouvoir parler, enfin parler quand je dis être sur un plateau, dire des choses qui sont essentielles et de leur donner un écho très important. Par exemple, si je prends un exemple, le texte d'Annie Ernaux que j'ai mis en scène en 2000, l'événement. Donc c'était en 2000 à la cartoucherie de Vincennes. Donc c'était, ce texte venait de sortir, raconte donc un avortement d'une jeune étudiante, un avortement clandestin. Ce texte venait juste d'être édité. Donc ça a eu un écho très fort au niveau des enseignantes, au niveau des jeunes filles, des jeunes gens. Mais on est parti en tournée, on a beaucoup joué. Mais vous vous rendez compte, déjà le bouquin n'était pas lu par tout le monde. Avec le théâtre, on lui a donné un autre écho. Et maintenant, le cinéma lui donne un écho incroyable. Donc, c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. J'ai compris en travaillant sur des textes que d'un coup, on pouvait... C'est ce qui est formidable, c'est ça, c'est de toucher énormément de monde. Par exemple, quand j'ai mis en scène la trilogie de Jules Vallès, L'enfant, le bachelier et l'insurgé, donc c'était vraiment de la révolte à l'engagement, je me suis rendu compte, pareil, on a touché 60 000 spectateurs. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors bien sûr, les auteurs, ces grands auteurs, n'ont pas forcément besoin de nous, mais nous, nous avons énormément besoin d'eux et d'elles. Voilà.
Du coup, si on se... Par rapport au matrimoine, justement, vous diriez que le théâtre, ça permet de transmettre... c'est une forme de transmission ou de... Comment vous...
Alors, oui, le matrimoine, c'est réellement toute notre histoire artistique, culturelle et politique qui nous vient de toutes les femmes. Et ça, c'est notre héritage culturel. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important. Donc... Avec ce projet que j'ai mené pendant 2 ans, ici à Malakoff, aussi bien avec la médiathèque, la maison des associations et le théâtre, la scène nationale, j'ai voulu, c'est une façon de s'inscrire dans cet héritage culturel. Et ça, ça me paraissait très très important, surtout que j'avais travaillé tout au long de mon parcours avec des femmes extraordinaires, des femmes remarquables. Et là, je voulais les partager cette expérience avec la population. Avoir travaillé sur des textes de Georges Sand, avoir travaillé avec Michel Perrault, avoir travaillé, grande historienne, avec Annie Ernaux, une des plus grandes écrivaines actuelles, avec Geneviève Fraisse, philosophe, femme politique. C'était députée européenne, c'était quand même quelque chose, et Reine Pratt, qui vient de sortir ce livre « Exploser le plafond, précis de féminisme à l'usage du monde des arts et de la culture », il me semblait que j'étais à une croisée comme ça, très très important, que mon travail scénique était vraiment à la croisée de pensées comme ça, en mouvement, de nombreuses femmes, et c'était une façon de m'inscrire dans ce projet.
D'ailleurs, justement, comme vous parlez de votre projet, si vous deviez, pour les gens qui n'ont pas suivi votre projet, si vous deviez expliquer qu'est-ce que c'est concrètement ce projet ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Qu'est-ce que vous avez... Enfin, c'est quoi votre projet ?
Alors, le projet de transmettre un matrimoine, c'était de partager entre des personnes de ma génération et des personnes plus jeunes et établir une sorte d'entretien croisé, de dialogue. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on présentait, j'ai engagé une jeune chercheuse de l'EHESS, qui sortait de l'EHESS, Lorraine Gell, et qui m'a aidée parce que, bon, moi, en tant que féministe de la première heure, j'avais besoin de mieux comprendre ce qui se passait, même si je trouve que le souffle féministe qui est en ce moment, depuis MeToo surtout, est absolument admirable et formidable. Je veux dire, il y a plein de choses qui se passent et c'est formidable de dialoguer avec les nouvelles générations. Donc j'ai voulu, avec elle, on a entamé un travail. Aussi bien, je lui ai fait connaître un certain nombre d'écrivaines et elle, elle m'a fait découvrir beaucoup de choses. Donc elle a... on a dit, c'est pour ça qu'on a ensemble trouvé ce terme de transmission d'un matrimoine, parce que nous nous sommes transmis réellement des choses l'une à l'autre. Parce que la transmission d'un matrimoine, pour moi, ne va pas que dans un sens. Hein. Il y a un mouvement dialectique et c'est ça qui donne cette vie. C'est très très vivant. Voilà, je voulais que ce soit vivant. Donc les rencontres qui ont eu lieu tout de suite avec Annie Ernaux, en septembre, les journées du matrimoine, qui sont les journées du patrimoine, hein, eh bien, Annie était interviewée par une jeune chercheuse et il y avait un dialogue entre une jeune écrivaine, Dali Farah, la jeune chercheuse, c'est Isabelle Charpentier, et Annie répondait aux questions. Voilà, il y avait une sorte de transmission, moi-même je posais des questions, et il y avait des lectures par des jeunes comédiennes. C'est-à-dire que c'était très très vivant. C'est ça qui est important, c'est que ça n'est pas, comment dire, un matrimoine, c'est de la vie. C'est de la vie. Hein. Il faut surtout ne pas l'oublier. Ensuite, avec Michel Perrault, c'est pareil. C'était cette jeune chercheuse qui l'interviewait, Michel Perrault. Et Michel était très, très, très contente. C'est Tania Torrance, qui est plutôt de ma génération, Michel, qui est d'une génération, et cette jeune chercheuse. Le dialogue était absolument passionnant, parce que d'un coup, on voyait le chemin des femmes, le chemin parcouru par les femmes. Et ça, c'est extraordinaire, par le féminisme. Et la dernière rencontre s'est faite avec des jeunes comédiennes. Et Reine Pratt, une jeune philosophe, et Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, et Reine Pratt et moi-même, et des jeunes du conservatoire qui disaient des textes de Monique Wittig. Donc, il y avait un brassage d'idées, de pensées, une pensée en mouvement, et ce matériau existe. Et ce matériau, tout le monde peut y avoir accès, ce qui est quand même assez formidable, d'aller sur le site de la mairie, Jeanne Champagne, transmettre un matrimoine, et là, c'est formidable. On a toutes les conférences, les rencontres, et c'est absolument... Et c'est ça, moi, mon désir, c'était que tout ça soit partagé.
C'est super intéressant. Je reviendrai après sur la question des matériaux et de la documentation et des ressources. Mais là, j'avais envie de rebondir sur une chose que vous avez dite, c'est la transmission, elle se fait dans tous les sens. Et je pense notamment entre les différentes générations aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes femmes qui sortent des livres, des bandes dessinées, des ouvrages. Et il y a les grands classiques, les livres, je pensais notamment, je voyais Monique Wittig, ou des livres de femmes qui sont... plus ancienne, est-ce que tout ça c'est une forme de matrimoine, enfin, comment vous voyez cette profusion d'ouvrages de femmes différentes, d'âges différents, de classes sociales différentes, comment vous analysez ça?
Ah, moi je trouve ça génial. Le souffle féministe qui a lieu actuellement, qui nous insuffle vraiment de l'énergie, aussi bien au niveau des textes de philosophie, Manon Garcia, Camille Froide-Vaumétry, d'autres textes des bandes dessinées, je connais moins bien, mais on m'en offre, donc cette jeune chercheuse m'en a fait découvrir. Et au niveau des jeunes femmes metteuses en scène, au niveau de la chanson, enfin au niveau de l'art plastique, attention, parce que moi je trouve que les arts, c'est vraiment... Je suis très, très attentive à ce qui se passe aussi au niveau plastique. Vous avez vu quand même l'exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou. Elles font l'abstraction. Moi, je me disais, mais alors, elles étaient où ces femmes, toutes ces œuvres? Elles étaient dans les sous-sols de Pompidou? On les cachait ou quoi? Et d'un coup, paf, ça apparaît. C'est complètement... Toyen, par exemple, qu'on voit au Musée d'Art Moderne, elle est extraordinaire, cette énorme exposition sur... et cette femme surréaliste. C'est incroyable, tout apparaît. C'est comme si on avait, j'allais dire, planqué, caché tout ça dans les sous-sols, je ne sais où, et d'un coup, par la force de la pensée en mouvement actuelle qui pousse, et de ça depuis MeToo, tout apparaît. Et ça, c'est génial. Et donc, vous avez raison, ça va réellement dans les deux sens. Hein, parce que les jeunes femmes découvrent, mais nous, on découvre également toutes ces jeunes écrivaines, c'est extraordinaire, ou ces jeunes metteuses en scène. Moi, je bouge beaucoup, donc je vais voir beaucoup de spectacles, et ça m'intéresse énormément. Parce que finalement, elles abordent les choses, souvent, actuellement, ce sont des collectifs. Et ça, c'est passionnant, parce que moi, j'ai travaillé en compagnie, mais je ne faisais pas ce travail d'improvisation, de collectif et tout ça, ou d'écriture de plateau. Moi, j'ai travaillé qu'avec des grandes écrivaines, mais je n'ai pas fait cette écriture de plateau. Je ne pratique pas ça. Je ne saurais pas, d'ailleurs, le faire. Et ça, c'est formidable, quand je vois quelqu'un, une jeune metteuse en scène, le pratiquer, comment elle fait. Enfin, c'est passionnant.
Complètement. Je me disais, donc vous avez créé vous avez intitulé votre projet « Transmettre un matrimoine ». C'est important personnellement pour vous la transmission ?
Ah oui. La transmission pour moi, je crois, née dedans. Hein. Mon père était instituteur, je suis née dans une petite école, ce que j'ai raconté un peu plus tôt. Oui, c'est très très important. Et tout au long de mon parcours, j'ai voulu transmettre. Hein, je veux dire, j'ai toujours lié, par exemple, quand même que j'ai étudié, que j'ai travaillé sur Bond, on avait mis la ville de Bourges à l'heure de Bond, c'est-à-dire on avait fait des ateliers sur Édouard Bond, avec Annie Ernaux, j'ai fait des ateliers dans plein d'établissements scolaires. En plus, j'appelais ça les ateliers passe-frontières, parce que je voulais qu'on passe non seulement les académies, les classes, les âges, les catégories sociales. Je travaillais aussi bien avec des élèves de Fénelon, où je donnais des cours de théâtre, que des élèves d'Aubervilliers, que des jeunes filles et des jeunes gens de la Seine-Saint-Denis, comme j'avais des cours aussi à l'Institut à Paris 3. Donc, vraiment, ou à Sciences Po. Alors, ça, pour moi, c'est une dimension fondamentale. Comment passer les frontières de classe? Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Très, très important. Donc, toujours, j'ai transmis à travers des ateliers. À chaque fois, il y avait création et formation.
Et en quoi, justement, cette notion de transmission, elle est particulièrement importante en ce qui concerne le matrimoine?
Si on ne transmet pas un matrimoine, il n'existe pas. C'est l'effacement total. C'est l'invisibilité totale. Déjà, c'est l'océan du silence, comme dirait Michel Perrault. Cet océan de silence. C'est terrifiant, quand même. Parce que nous... Moi, j'ai eu une mère, elle parlait, hein, c'est une femme indépendante. Mais enfin, quand même, à cette époque-là, c'était encore le chef de famille. Hein. Donc, ça m'a beaucoup perturbée, ça. Beaucoup perturbée. Et c'est vrai que quand je dis que ma troisième naissance, parce qu'il y a eu la première, la deuxième, le théâtre, la troisième, c'est vraiment les femmes dans les années 70, ça, c'est la vraie naissance. Hein. C'est Simone de Beauvoir. Et c'est le MLF, hein. C'est vraiment d'avoir pu aller à toutes ces réunions, à cette agitation, à cette indépendance, cette liberté. C'était incroyable. Ça, d'un coup, même je ressens tout ce qui s'est passé en moi. Alors parallèlement, bien sûr, il y avait le théâtre, le conservatoire et tout ça, mais il se passait tellement de choses que je devenais intelligente. Je comprenais un peu quelque chose de la vie, de l'enjeu, des enjeux. Et donc ça m'a beaucoup... Donc ça, j'ai envie de le transmettre. On me l'a transmis, c'est un vrai cadeau. J'ai envie de le transmettre. Et ça me paraît, d'ailleurs, de l'ordre de la responsabilité. C'est de l'ordre de ma responsabilité. Ça ne m'appartient pas. C'est vraiment, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Pourquoi j'ai mené ce projet? Parce que d'abord, tout mon travail allait partir aux archives. Et avant... que tout parte dans des boîtes.
C'était quoi votre travail, justement?
Ah, mon travail, donc tout mon parcours en tant que metteuse en scène, donc aller partir aux archives. Et avant que tout ça n'entre dans des boîtes, je voulais le partager. Je voulais partager ce parcours parce que c'est un parcours parcours tout à fait, je dirais, quand même particulier, qui est lié à l'époque à laquelle j'ai commencé à faire du théâtre, c'est-à-dire donc avec le mouvement des femmes, puisque j'ai commencé à Théâtre Bouvert en 78, dans le cadre du Festival d'Avignon, avec un texte d'Anaïs Nin. Donc, une adaptation d'un texte d'Anaïs Nin qui s'appelait La Maison d'Anna. Donc, ce travail qui posait déjà des questions, Anna, jeune femme dans le labyrinthe, tentant de comprendre qui elle était, d'accoucher d'elle-même, moi j'étais en plein dedans. J'étais vraiment, je me retrouvais totalement. Donc, cette possibilité de s'identifier, de se projeter dans des textes d'écrivaine était très important. De plus, à cette époque-là, j'ai rencontré une comédienne extraordinaire qui est Delphine Seyrig, quand même, et Carole Roussopoulos, qui faisait des documentaires avec les comédiennes, Sois belle et tais-toi, un documentaire absolument extraordinaire, donc qui posait la question du rapport et du rôle de ces comédiennes qui étaient plutôt, aliénées, ces comédiennes étaient... les rôles étaient un peu stéréotypés, voilà, disons, des rôles. Donc, tout ça, c'est quand même ce que j'appelle de la prise de conscience. Je veux dire, non seulement prise de conscience de soi en tant que femme, mais prise de conscience de qu'est-ce que c'est qu'être comédienne. Donc, ça aussi, ça a déclenché chez moi un désir de mettre en scène. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, d'un coup, quand j'ai mis en scène La Maison d'Anna, c'était une mise en espace à théâtre ouvert et qu'ensuite en spectacle, j'ai compris beaucoup de choses, aussi bien du métier, à l'intérieur du métier, que en tant que femme. Donc, c'est après, il y a eu beaucoup d'autres textes de femmes que j'ai rencontrés, Agota Christophe, que j'ai rencontré. J'ai mis en scène aussi un texte de Rachilde, que vraiment tout le monde a oublié Rachilde, qui était une femme surréaliste, contemporaine de Jarry. J'ai mis en scène des textes de Georges Sand, justement. C'est là où j'ai rencontré Michel Perrault. C'est là, donc, c'était une rencontre très importante de rencontrer Michel Perrault, de comprendre beaucoup de choses. Elle m'a éclairée sur Françoise Héritier, sur la valence différentielle, enfin, plein de notions fondamentales. Ensuite, après, j'ai rencontré Annie Ernaux en 2000. Donc, il y avait... Vous comprenez, j'ai rencontré les œuvres avant de rencontrer les personnes. C'est vraiment l'œuvre, les textes et ce que racontaient les textes qui m'ont amené à rencontrer ces personnalités remarquables. Et que ce soit avec Geneviève, on avait fait un chantier à la cartoucherie entre l'écart, entre les lois et les mœurs. C'était très, très important. Et Geneviève, pareil, était là, présente. Je veux dire, ce sont ces personnes-là, qu'elle soit politique, qu'elle soit écrivaine, qu'elle soit artiste, mais avec une pensée en mouvement, c'est-à-dire qui vous ouvre vraiment la tête, sont fondamentales. Donc, il faut partager. Il faut partager. C'est notre responsabilité. Donc, c'est ça qui m'a guidée. C'est tout mon travail. C'est tout mon travail de 35 ans de metteuse en scène, avec mes questionnements que je souhaitais partager, mais pas seule. Je n'allais pas me mettre en scène, moi. C'est pas ça. C'est au contraire, je voulais faire une sorte de mise en scène à travers des lectures, à travers des prises de parole, à travers un dialogue. On n'était pas des gens qui étaient d'accord, pas d'accord, mais que tout le monde participe à ça et que tout le monde puisse prendre la parole. Et ça, c'était très très important. C'était ce qui s'est passé quand même à Malakoff. Il y avait un côté université populaire. C'était très très beau, très fort. Et je suis, et maintenant, tous ces textes-là, je suis en train de les mettre en forme, et c'est de laisser des traces de tout ça. C'est comme dit Geneviève Fraisse, elle dit une très très belle chose, il faut fabriquer ses lignes, ses lignées, voilà. C'est-à-dire, où est-ce qu'on veut, on veut s'inscrire, Et ça, c'est très, très important. Moi, c'est vrai que je suis modeste, mais le fait de me sentir, de m'être inscrit, mon travail s'est inscrit dans la pensée et la mise en scène des textes de ces femmes, de ces écrivaines remarquables, historiennes, philosophes ou écrivaines, c'est très, très important. Et c'est très important, ça, aussi bien les unes que les autres, elles affirment quelque chose de l'histoire des femmes, du chemin des femmes, de la liberté des femmes. Et ça, il faut le transmettre. Non, mais c'est évident que le matrimoine, il faut le déterrer, là. Il faut avoir une certaine volonté de retrouver les textes de femmes, ce que fait Aurore Evin avec les textes de grandes autrices. Et pareil pour les plasticiennes, pour les peintres, pour les écrivaines. Il faut absolument... Je pense que ce qui est beau, enfin, à mon avis... c'est de le mettre en rapport. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que ça reste totalement vivant. Je ne suis pas chercheuse. Donc, moi, j'ai besoin du vivant. Et le plateau, c'est quelque chose de vivant, c'est du présent. Mais je n'existe pas si ces femmes, avant, ces écrivaines, ces grandes autrices, n'existent pas, si on ne parle pas d'elles. Donc, c'est elles qui me nourrissent. C'est une nourriture. Donc, le matrimoine, il faut réellement... en parler, il faut aller dans les centres, au centre Simone de Beauvoir, dans les archives féministes d'Angers, il faut aller un peu partout où on va fouiller et trouver des choses, mais et trouver des pépites, et qu'on nous mette ça, on dévoile tout ça, parce que, alors là, qu'est-ce qu'on a recouvert ? C'est vraiment incroyable. Et ce travail du matrimoine, c'est réellement politique, hein. C'est réellement c'est militant, parce que même quand vous appuyez sur les touches du clavier et de l'ordinateur, quand vous écrivez matrimoine, c'est patrimoine qui sort, comme si on avait fait une faute. Donc il y a réellement ce mot, il faut le répéter, tout le monde pense que c'est un néologisme, il faut le dire, ça existe, c'est là, c'est tout l'héritage de nos mères, de toutes les femmes qui ont écrit, de toutes les romancières, de tous les siècles. Et ça va beaucoup plus loin, hein, mais moi, ce qui m'importe, alors je sais qu'il y a des chercheuses qui sont très très branchées sur les siècles passés, moi ce que j'aime c'est ce rapport, c'est la confrontation, c'est la friction, c'est la confrontation entre le passé et le présent, parce que c'est de la lecture du passé qu'on peut comprendre le présent et surtout projeter vers l'avenir. Et ça, moi c'est mon axe, hein. C'est fondamental. C'est là où je travaille, à cette jointure-là.
C'est super intéressant par rapport à la notion de transmission, je trouve. Il y avait un thème qui m'a aussi intéressée, c'était la notion de modèle, parce que forcément, nouveaux modèles, non, mais c'est une autre forme de modèle. Vous, comme ça, si vous deviez me... donner, je dis trois, mais je dis un nombre au hasard, trois modèles pour vous de femmes, vous citeriez qui ?
Ah ben, si je devais donner des modèles, hein, et des femmes qui ont été pour moi, il y a George Sand, c'est sûr. Hein, son engagement politique que j'ai découvert, alors, a été pour moi extraordinaire, et cette femme a été libre. Sa vie est une œuvre, c'est extraordinaire. L'amour était là, l'écriture était là, la politique était là, les amis étaient là, enfin bref. C'est très très fort pour moi. Bien sûr Annie Ernaux, hein, qui a été à un moment par son œuvre et par l'amitié littéraire et l'amitié tout court que nous avons liée et qui est vraiment un modèle, absolument. Et Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ça a été pour moi déclencheur. Lire Le deuxième sexe, ça a été pour moi fondamental de comprendre. Tous les modèles étaient de se marier, d'avoir des enfants. Et Beauvoir m'a secoué la tête, quoi. Et d'autres femmes, comme Céry, quand je parle de Carole Rossopoulos, c'est-à-dire des femmes que vous avez rencontrées qui vous ont secoué un peu pour vous faire comprendre que... Ouh. Et puis quand même, je dirais, il y a une femme que j'ai rencontrée très jeune, je suis partie au Moyen-Orient en sortant de Bourges, Antoinette Périer, une aventurière. Et alors là, ça a été un déclencheur pour moi, cette femme aventurière, photographe, qui était allée comme ça au Moyen-Orient, seule, à dos de cheval. Moi, c'était un truc extraordinaire. Je la regardais, je l'écoutais, je ne me lassais pas de la regarder, de l'écouter. Elle était au Club des Explorateurs. Et je suis partie d'ailleurs au Moyen-Orient, grâce à elle, avec un copain, pendant presque 6 mois, quoi, au Baloutchistan, au Sistan, enfin, en Afghanistan, à cette époque-là, c'était absolument extraordinaire, extraordinaire. Mais c'est grâce à elle. Et donc ça, ça m'a quand même bien secouée. Et c'est vrai que quand même, dans le théâtre, il faut le dire, c'est Ariane. Ariane Mnouchkine, pour moi, c'est un trésor vivant, Ariane. Donc, Ariane était un modèle pour nous toutes, au début. Enfin, du moins pour moi. Moi, c'était une découverte mais prodigieuse. Hein, prodigieuse. J'étais éblouie. Éblouie, vraiment. C'est quelqu'un pour qui j'ai, Ariane, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, quoi. Mais je me disais, il faut qu'il y ait un autre chemin. Il ne faut pas qu'il y ait Ariane. Enfin, Ariane ne peut pas être seule. Il faut qu'il y ait plein d'Ariane. Ariane est unique. C'est un trésor vivant, Ariane. Mais il faut que nous, jeunes femmes, à cette époque-là, hein, je parle, hein, dans les années 70, hein, il faut qu'on trouve notre chemin. Et ça, ça n'a pas été toujours facile.
Est-ce que du coup, là, je vous demandais des modèles pour vous. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aussi être un modèle ?
Moi, être un modèle, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que... D'abord, ce n'est pas moi qui peut le dire. Ce n'est pas moi qui peut le dire. Je crois que c'est les jeunes gens, les jeunes filles que j'ai rencontrées. Je pense qu'au moment où j'ai rencontré Suliane Brahim, qui est maintenant... sociétaire à la Comédie Française quand j'étais à Bourges, ou Chloé Dabert qui est aujourd'hui directrice du Centre Dramatique National de Reims. Est-ce que j'étais un modèle à ce moment-là ? Je pense qu'elles ont eu envie de faire du théâtre, sans doute, avec les cours que je donnais à ce moment-là. Je ne sais pas, je crois, c'est une notion qui m'embarrasse énormément. Moi, je veux bien dire que j'ai des modèles, mais non, c'est une notion qui m'embarrasse beaucoup. Mais en même temps, ça, c'est le secret de chacune et chacun. Hein, moi, ce n'est pas moi qui peux le dire. C'est impossible, ce serait terrible si j'ai su ça. Non, non, il faut beaucoup de modestie. Mais si ça inspire, disons, ma forme de liberté, ayant été metteuse en scène, je voulais absolument des enfants. Bon, il m'a fallu travailler dur pour pouvoir poursuivre ce métier dans les conditions de l'époque qui étaient quand même très, très difficiles. Donc, peut-être, si en tournée, en chemin, j'ai pu inspirer quelques jeunes femmes qui pouvaient dire « c'est possible ». C'est possible, oui. Alors ça, c'est formidable. Mais c'est elle qui... Oui, j'en ai rencontré plusieurs qui ont dit « Mais madame, bonjour, c'est grâce à vous si j'ai fait ça. » Ça m'est arrivé souvent. Mais oui, je pense qu'il faut déclencher. Peut-être on peut déclencher une chose, je ne sais pas si c'est le mot modèle, mais déclencher cette forme de liberté. Parce que ça, c'est la chose la plus difficile à envisager. Être libre, se sentir libre et se sentir légitime dans ce métier. Ça, c'est la chose la plus difficile. Pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile. Non pas être libre, ça, dans ma vie, je l'étais, mais dans le métier, pouvoir être libre parce qu'il y a une question de financière et puis me sentir légitime, oui, ça, c'est une vraie conquête hein, pour les femmes metteuses en scène. Ça, c'est une vraie conquête. Hein. Et encore maintenant.
Justement, par rapport à cette notion de légitimité, je pense à des œuvres qui font partie d'un patrimoine, des œuvres d'hommes qui font partie d'un patrimoine qu'on a tous, commun, qu'on connaît. Est-ce qu'on se pose moins cette question de la légitimité alors que... Beaucoup de femmes se posent quand même la question de la légitimité de leur travail, de leur parcours,
Ben, c'est-à-dire que la légitimité, les hommes, je pense, la posent moins, puisque toute la société repose sur le patriarcat. Donc ça paraît évident qu'ils peuvent faire ci et ça, voyager surtout. Moi, au moment où j'ai voyagé, c'était terrible de se dire qu'on ne peut pas voyager seul. Je ne pouvais pas à cette époque-là, je n'aurais jamais osé. Alors que maintenant, j'ai une de mes filles qui est partie seule en Colombie, qui est partie seule au Mexique. Bon, voilà, ça n'empêche que je ne suis pas toujours tranquille, mais je veux dire, c'est quand même aussi une notion qui a fait du chemin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais les garçons sont nés Enfin, ça bouge maintenant, ça va bouger tout ça, je pense, avec la question de genre, la déconstruction et tout ça. Mais je pense que, sans doute pour eux, ça paraît assez plus évident. Mais puisque de toute façon, c'est récent qu'on nomme des femmes à la direction des centres dramatiques. Avant, c'était tout le temps des hommes. Voilà. Donc, et les hommes étaient des metteurs en scène. Bon, voilà, c'est pareil pour les femmes. Là, maintenant, il y a un mouvement énorme de magnifique de femmes qui écrivent. Mais la littérature a été. L'histoire de l'art a été écrite par des hommes. La littérature a été écrite par des hommes. Enfin, bon, tout. Les arts également. Donc, ce qui se passe quand même depuis un certain temps est absolument extraordinaire. Et il faut être dans ce souffle. Absolument, il faut participer de ça et il faut encourager tout ça, ça me paraît évident. Mais c'est vrai que la question de la légitimité est certainement, de confiance et de légitimité, certainement une des choses qui me semble, qui est liée à beaucoup de choses, hein, qui n'est pas simplement liée homme-femme, qui est liée à une question de classe, qui est liée à une question de milieu, qui est, enfin voilà, ça c'est quand même pas uniquement une question de homme-femme.
Vous vous êtes posé cette question, vous ?
Ah oui, moi je me la suis posée dans le milieu du...
Je veux bien que vous me disiez, je me suis posé cette question de la légitimité pour
que j'enlève ma question. Oui, la question de la légitimité, je me la suis posée tout le long de mon parcours. On a besoin d'une reconnaissance. Alors, c'est évident, quand il y a eu reconnaissance, qu'il y a eu... ma compagnie a été subventionnée, conventionnée, on se dit, voilà, il y a une forme de reconnaissance. Mais c'est toujours là. C'est incroyable. Maintenant, c'est moins là, heureusement. Mais je dis, dans un texte que j'ai écrit pour Annie Ernaux, qui est dans les Cahiers de Lerne, je dis que oui, c'est elle qui a légitimé mon travail. Absolument, c'est elle qui, en reconnaissant la qualité de mon travail, en m'écrivant des lettres magnifiques, elle m'a donné une forme de légitimité. Mais de toute façon, il faut l'acquérir soi-même, hein, vous savez, les gens ne vous la donnent pas. Mais là, c'était un beau cadeau qu'elle me faisait, Annie Ernaux.
Super. Je voulais parler un petit peu de la question de ce qu'on parlait tout à l'heure, du matériau, des ressources, de la documentation, je pensais ça notamment. Dans votre travail, pourquoi vous avez fait tel ou tel choix de cette femme-là ? Comment vous avez mené cette réflexion avec des textes de femmes qui ne sont plus là, des textes de femmes actuelles ? Comment vous avez envisagé ce mélange ce mélange de matrimoine.
C'est comment on... Alors, vous me posez la question de comment on choisit un texte, le texte que l'on va mettre en scène. Je crois que je ne peux pas vous dire que j'ai choisi un texte, je ne me suis jamais posé cette question. Il y a une sorte d'évidence qui est arrivée. Pour moi, les textes sont... C'est comme des rencontres. C'est des livres, d'ailleurs je lis énormément, donc les livres m'accompagnent depuis longtemps et sans doute ça correspond avec quelque chose qui à ce moment précis, j'ai envie de dire, vous savez, il y a toujours un lien secret avec un texte que l'on met en scène, ça ne regarde que vous, hein. Mais si ça vous regarde vous, ça peut regarder d'autres, c'est-à-dire ce côté qui moi m'importe, c'est intime et collectif à la fois. C'est-à-dire qu'il parle de la vie, parce que j'ai mis en scène beaucoup de récits d'apprentissage, ce qu'on appelle les récits d'apprentissage, la littérature, les récits de formation, que ce soit le texte que j'ai mis en scène de Agota Christophe, Le Grand Cahier, de ces deux jumeaux dans la guerre, que ce soit même La Tour d'Amour, qui était le texte de Rachilde entre un jeune gardien de phare et un vieux gardien de phare, donc la transmission qui était quand même au niveau de l'amour et de la mort et de la mer, MER, était quand même un texte d'une violence inouïe, mais formidable. Hein. Ensuite, après, les textes de Vallès étaient des récits d'apprentissage, hein, de la révolte à l'engagement, de l'enfant, le bachelier, l'insurgé, c'est vraiment un chemin, un parcours. C'était... Et les textes d'Annie Ernaux, c'était pareil. C'est vraiment très, très fort. Ce qui m'a retenu, c'est évident qu'à la suite d'un atelier que j'avais mené dans une classe de BEP professionnelle, j'avais eu une grosse difficulté autour d'un texte de Beauvoir où la jeune fille qui devait lire ce texte l'a envoyé au sol en disant « c'est dégueulasse de nous faire lire ça, madame ». Et c'était au niveau de l'IVG et de l'hypocrisie de la société. Donc, c'est à la suite de ça, comme pour moi, nous ne sommes pas hors de la société. On se construit avec la société. On ne se construit pas hors du monde. C'est fondamental. Donc, il m'a semblé qu'il fallait que je réponde à cette jeune fille, mais que je l'informe, parce qu'on croyait, nous, que tout était... Vous savez, dire féministe encore dans les années 2000, moi, j'ai toujours dit que j'étais féministe, mais c'était un peu ringard. Et donc, là, j'ai dit, il faut que je trouve une réponse, et c'est comme ça que j'ai rencontré Annie Ernaux. J'ai rencontré son texte, d'abord, l'événement, et ensuite rencontré Annie Ernaux. Donc, vous voyez, c'est... Comment dire? Les textes s'enchaînent les uns aux autres. Il y a comme une évidence. Ça s'impose à moi. Voilà, c'est comme une nécessité. Et alors là, c'est vrai que ça vous donne, quand ça vous paraît évident, ça vous donne une force. Et on se sent utile. Oh, quel bonheur! Vous vous rendez compte? Le théâtre est utile. Hein, et on se sent responsable. Et ça, ça donne une force incroyable.
J'allais poser une question... vous, forcément, c'est des textes que vous aimez, que vous avez lus, mais qui sont peut-être, après, j'allais dire moins connus du grand public, ça dépend quel texte maintenant. Mais est-ce qu'il y a quand même, je pense tout à l'heure au Musée Pompidou, quand vous avez dit, il y a des œuvres qui sont sorties comme ça, est-ce qu'il y a quand même une difficulté à faire, faire ressortir ces œuvres, à trouver au niveau de la documentation, après, maintenant, je sais qu'il y a pas mal de chercheuses, de fans qui écrivent, mais est-ce qu'il y a une difficulté pour trouver, pour chercher des informations, pour faire ressortir des choses?
Alors, je crois que pour faire ressortir des choses, que ce soit au niveau plastique, au niveau de la peinture, au niveau des femmes plasticiennes, au niveau des écrivaines, je crois, et des musiciennes, il ne faut pas oublier les compositrices. Vraiment, le travail est énorme, le chantier est énorme. Je crois qu'il y a maintenant des personnes qui sont en poste, comme à Pompidou ou ailleurs, il y a des personnes qui sont en poste qui font que elles ont le désir, elles aussi. Également, je crois, dans l'enseignement, parce qu'il ne faut pas oublier l'éducation nationale. Je crois que maintenant, il y a un mouvement... J'ai la sensation qu'on ne peut pas revenir en arrière, depuis MeToo surtout. Ce serait aller. Alors, bien sûr, on est terrifié de ce qui vient de se passer aux États-Unis, parce qu'on se dit, quel retour arrière incroyable, et puis surtout, c'est effroyable. C'est réellement remettre les femmes dans une infériorité naturelle, enfin, c'est terrible. Je crois qu'il ne faut pas que je parle de ça, parce que ça me rend folle complètement. Donc, on doit toujours, nous devons être très, très, très vigilantes et en éveil. Il me semble que c'est essentiel que des femmes soient dans des postes qui permettent de faire ressortir ces œuvres et que les chercheuses participent de ça. Je ne vois pas comment, sinon, ça peut émerger. Il faut qu'il y ait désir, volonté et moyens. Et je pense que les médiathèques, les bibliothèques, il y a quand même un mouvement actuellement de nécessité. Là, je vois, par exemple, pareil, j'ai été contactée par le CDN de Montluçon, Carole Thibault, pour participer à des journées matrimoine. Je pense qu'il y a, pareil, de la part de la SACD, une volonté de mettre en avant des femmes. Mais où sont-elles, les femmes? Notamment, on parlait avec Sophie Deschamps, qui était avant à la SACD et qui avait écrit un article. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Voilà, on les cache. Donc là, je pense qu'il y a une nécessité, on va vers une visibilité nécessaire. Sinon, ça paraît... je crois que c'est pas possible. C'est plus possible. C'est plus possible maintenant. C'est plus possible. À une époque, elle n'était pas visible. Là, maintenant, c'est plus possible. Je crois qu'il y aurait un mouvement très très fort pour empêcher cet effacement à nouveau. Et je crois que ce qui se passe aux États-Unis, c'est absolument effroyable, et que toutes les manifestations qui sont partout, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis, sont là pour faire que non, ça n'est pas possible de revenir en arrière comme ça. On ne peut pas.
Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je pensais à quand il y a eu l'histoire de Polanski au César.
Oui.
Il y avait Adèle Haenel qui avait pris la parole, je pense, dans Mediapart, et qui avait parlé de, je crois que c'était ces mots, mais je ne suis plus sûre, de cette nécessité de repolitiser le réel. Est-ce que c'est une notion qui vous parle ?
Tout à fait. Cette notion de repolitiser le réel, cette notion aussi qu'il y a eu avec ce film d'Adèle Haenel et Céline Sciamma, La jeune fille en feu, c'est-à-dire de donner un autre regard, hein, ce female gaze, un autre regard sur la création. C'est ça aussi qui est très très important. Voilà, c'est un autre regard. Moi, je ne pourrais pas rentrer dans le débat avec Polanski et tout ça, parce que je suis pas assez... il faut demander à Reine Pratt, je ne suis pas habilité à le faire, mais je pense que ce qui est en train de se passer dans le cinéma avec tous ces films de jeunes femmes, ça c'est bien sûr c'est un autre regard. C'est un autre regard sur les femmes. On rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Delphine Seyrig et Carole Rossopoulos, Sois belle et tais-toi, qui d'un coup, il y a d'autres rôles de femmes. On n'est pas dans les stéréotypés. C'est pas stéréotypé. C'est-à-dire que les femmes peuvent parler d'autre chose que des mecs. Hein. Parce que sinon, ce qui était avant, on voyait que des films de femmes, de quoi parlent-elles alors c'était monstrueux, quoi. De robes et de mecs. Alors que les femmes, non. Alors que deux mecs entre eux, ils parlent pas forcément des femmes. Excusez-moi. Hein. Donc là, il faut peut-être parler d'autre chose. Il y a plein de sujets extraordinaires dont il faut parler. Et qui sont très très importants.
Ça va, les questions
ou... Ça, c'était pas bon. Ça,
vous trouvez bon,
non, je trouve que c'est un peu bateau parce que
Ma question ou...
Non, mais moi, ce que j'ai raconté par rapport au female gaze, par rapport à... Enfin, c'est fondamental, cette chose-là. C'est très, très... Et les femmes en politique, c'est très, très important. Mmh. Moi, j'ai énormément suivi tout ça. Par exemple, là, je voulais parler, c'est vrai que... Ah oui, on peut peut-être parler de ça. Parce que, oui, je peux parler ? Oui. Non, ce qui est très très important, c'est qu'on se rende compte que les femmes ont toujours été contraintes de transgresser la loi, les lois des hommes. Par exemple, quand Ségolène Royal s'est présentée, bon, Fabius a dit qui va garder les enfants ? C'est monstrueux quand même, c'est une honte, c'est scandaleux. Mais elle a pris son droit. Elle a pris son droit et elle a transgressé une loi qui jusque-là était la loi que les hommes se présentent. Point.
Ségolène Royal, j'ai deux questions. Ségolène Royal, est-ce que c'est une forme de elle fait partie du matrimoine et est-ce que le matrimoine c'est forcément transgresser les lois ?
Ah ben non, mais j'espère que c'est pas que transgresser les lois, mais elle fait partie du matrimoine, pour moi, Ségolène Royal. Bien sûr qu'elle fait partie, bien sûr qu'elle en fait partie. Pour moi, ça a été très très important quand on a vu cette femme transgresser cette loi et de voir un peu la réaction de tous ces mecs hein, qui se sont désolidarisés d'elle sur un plan politique et qui ont dit « mais qui va garder les enfants ?» Mais c'est une honte, est-ce qu'on dirait ça si c'était un homme ? Absolument pas. Donc c'est scandaleux. Et alors ça, c'était quand même, j'ai trouvé ça formidable. Oui. Et d'ailleurs, bon, bah, elle est allée voir Ariane et tout ça, et Ariane qui pour moi reste un phare, phare quand même dans ce métier. Je veux dire, c'est très très important. Il y a une communauté autour d'elle. Oui, il y avait quelque chose de très fort qui moi m'a parlé réellement. Je le dis sincèrement, c'était je pense que, par exemple, pareil, quand Annie Ernaux écrit, bien sûr qu'elle transgresse la loi. Elle a transgressé plein de lois pour pouvoir être ce qu'elle est aujourd'hui. Sinon, elle ne le serait pas. C'est-à-dire, toute femme qui est arrivée à un moment, elles ont transgressé les lois patriarcales qui font que non, on n'a pas à être là. On n'a pas à être à cette place-là. C'est une question de place. Donc aujourd'hui, c'est évident qu'il faut donner d'autres modèles aux jeunes filles et aux jeunes gens pour qu'elles prennent leur place et qu'elles aient confiance et que c'est possible. Par exemple, là, vous me dites que vous allez rentrer au TNS au niveau du son. Mais si, c'est formidable. Mais il y a peu, il n'y avait pas de filles sur les plateaux au niveau technique. Quand moi, je suis arrivée à l'Athénée, au théâtre de l'Athénée, c'est grâce à Josiane Orville, qui était une femme, qui dirigeait le théâtre. Et qu'est-ce que j'ai dû faire avant que les projecteurs soient montés? C'est remplir le frigo de bière. Et on ne m'appelait pas Jeanne, on m'appelait maman. Vous voyez un peu le mépris. Donc, je ne leur en veux pas, c'était une équipe formidable. Mais c'était quand même tout de suite méprisant. C'est-à-dire que, bon, être dirigé par une femme, ils n'appréciaient pas. D'ailleurs, celui qui était formidable, qui était un créateur de lumière absolument magnifique, Joël Ourbeck, m'a dit « Mais oui, allez, Jeanne, on remplit le frigo. » Non, mais c'est donc des choses où je me souviens dans des réunions avoir entendu « Mais moi, programmer des femmes, ça ne me fait pas bander. » Alors, bien sûr, moi, je ne supportais pas d'entendre ça. Alors, on me taxait de féministe de service. Ah voilà, la féministe de service. C'est ça, c'est la question, c'est celle-ci, c'est que je vous parle de ça, il y a quand même, oui, hein, maintenant, ça n'existe plus. Ça, dans ces réunions artistiques et culturelles, ça ne se pratique pas, ce serait très très mal vu, d'abord, avec toutes les notions de harcèlement et de choses comme ça. Mais là, je vous parle de ça, il y a une vingtaine d'années. Mais il y a une vingtaine d'années, voilà, point.
Il y a presque inévitablement un lien entre le matrimoine et une forme d'engagement politique. Je pensais à comment il s'appelle ce livre, au génie lesbien de Alice Coffin, où elle parle de la question de toute façon la neutralité. Bah, parce que par exemple, on met en scène un texte d'homme, ben on met en scène un texte.
Oui.
On met en scène un texte de femme, et ben c'est pas neutre. Et est-ce que ça vous, enfin c'est pas neutre. Je sais pas, je m'exprime mal, mais.
Si.
Est-ce que du coup vous le ressentez ça quand vous pouvez pas juste présenter un texte, enfin mettre en scène un texte de femme juste parce que c'est un texte de femme, enfin.
Alors moi j'ai mis en scène des textes d'hommes au début. Il y avait pas de, pour moi je n'avais pas encore, je pense, c'était pas là que ça se situait. Hein, même si j'ai commencé avec La Maison d'Anna, avec un texte d'Anaïs Nin. Enfin, une adaptation d'un texte d'Anaïs Nin. Mais l'important, c'était ce que contenait le texte, ce que racontait le texte, puisque j'ai mis en scène Vallès, je veux dire, pour moi, c'était l'enfant, que ce soit... Mais c'était quand même un garçon, hein, faut dire la vérité, à cette époque-là, les filles n'avaient pas le droit de passer le bac, donc voilà, et le bachelier, l'insurgé, et c'est pas... Mais voilà, mais il y avait presque un neutre, et donc j'aimais beaucoup ça, l'insurgé, l'enfant... Mais c'était le bachelier. Bref, mais je trouve que les filles pouvaient se projeter, se sont projetées quand même dans l'enfant de Vallès. Hein. Mais c'est vrai que quand j'ai fait Georges Sand de l'Assemblée nationale, d'un coup, ça a libéré une parole des filles. Ça, c'était formidable. C'était formidable. D'un coup, c'est évident que je ne m'attendais pas non plus à ça. C'est vrai que 120 jeunes filles et jeunes garçons qui ont envahi l'Assemblée nationale avec les textes politiques de Sand, et ces filles qui étaient tellement contentes, parce que Georges Sand a un texte très féministe hein, qui s'appelle Indiana, que peu de gens connaissent et peu de gens en parlent, mais ces filles, elles étaient heureuses de dire les mots, parce que vous savez, il n'y avait pas que... Il y avait des filles de Saint-Denis, de Nanterre et tout ça. On a fait un film qui vaut vraiment le coup... voir, enfin c'est Annelise Maurice et Catherine Pamard qui ont fait le film à partir de ce que j'ai fait et où on voit ces filles contentes de dire à cet homme qu'elles sont libres, qu'elles veulent être libres, c'est-à-dire que c'était Georges Sand parler comme elle parlait elle, quoi, dans Indiana, c'est ça qui est formidable parce qu'elle était en difficulté avec son propre mari, donc ce qu'elle disait dans son œuvre, elle le ressentait profondément, donc ces jeunes filles elles étaient contentes de pouvoir dire qu'elles étaient libres de leur conscience. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est... Je ne sais plus, j'ai peut-être perdu la question.
C'était sur les textes de...
Oui, alors après, il y a eu... La question des textes de femmes, c'est venu C'est venu, l'histoire d'Agota Christophe, c'est parce que je l'ai rencontrée après une représentation, elle nous a proposé ce texte, donc voilà, ça n'est pas, je veux dire, il n'y a pas eu une recherche précise de ma part. Hein. Pour Georges Sand, c'est Ren Pratt qui est venu me proposer ce texte, et parfois c'est moi. Parfois c'est moi qui, par exemple, quand je suis allée chercher ce texte d'Annie Ernaux, parce qu'il parlait d'une chose, de cet événement qui, pour moi, était fondamental. Voilà. C'est... De toute façon, je suis femme, hein, et j'ai eu envie, à un certain moment, oui, de mettre en scène des textes de femmes sur le plateau. Oui, oui, ça, c'était... C'était que ce soit pour La Femme gelée, par exemple, qui est un texte très très fort, très très fort, plus un dialogue avec le texte de Simone de Beauvoir, de Le deuxième sexe. Donc pour moi, ça c'était très très important, et ça me semblait très très contemporain, très actuel, quoi. On ne parlait pas encore de la charge mentale à cette époque-là, or c'est un texte très très important, quoi. Et puis après, j'ai mis en scène les textes de Duras, parce que j'avais besoin de... J'aime beaucoup Duras, et voilà. Donc ça... Disons que les choses se sont faites simplement. Alors peut-être que je trouve plus d'intérêt aux textes de femmes, mais je lis aussi bien des textes de femmes que des textes d'hommes. Enfin, peut-être qu'en ce moment, je lis plus de textes de femmes parce que j'étais dans ce travail autour du matrimoine. Hein, voilà.
Est-ce que du coup, derrière le... Est-ce qu'on peut parler de matrimoine en étant neutre ou c'est pas possible?
Ah ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, là. Ça, je ne peux pas vous dire. Je pense que dans quelques années, on parlera du matrimoine et du patrimoine de façon, j'espère, beaucoup plus fluide.
Est-ce que vous avez la sensation d'être dans une forme d'acte militant en vous attachant à transmettre des œuvres de femmes ou des œuvres qui ont une portée féministe?
Je crois que oui, transmettre des œuvres de femmes, oui, oui, souvent. Souvent, j'ai eu la sensation d'avoir une fonction, donc, je dirais, artistique et militante également, hein, et politique. À partir du moment où vous mettez sur le plateau une œuvre d'Annie Ernaux, c'est évident que c'est intime et politique. Donc, il y a une forme... même si Annie Ernaux, de toute façon, est militante, mais enfin, je ne me permettrai pas de parler pour Annie, parce que ça, ce ne serait pas bien. Mais moi, il est évident que la dimension militante de son œuvre m'importe, parce qu'elle est politique de l'intérieur, et c'est évident que ça, c'est très, très important. Ça a été une des grandes forces de son écriture. Voilà. Je dirais politique militante, je ne sais pas, je crois que c'est vrai que parler aujourd'hui du matrimoine, c'est militant quelque part, hein, c'est une fonction militante. Si moi je n'aurais pas pu jouer comme dans plein de théâtres, si on m'avait dit « Ah, tu viens avec ton militantisme », voilà, non, c'est autrement où j'arrive avec une forme artistique. Il faut attention, ne pas perdre ça. Je peux militer à l'extérieur. Hein. Mais il est évident que le théâtre que j'ai fait est artistique et politique. Il a une forme artistique. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Ça n'est pas un acte militant. C'est pas vrai. Je veux dire, d'abord, j'ai fait du théâtre. Simplement, il a un rôle social et politique. Ça, c'est vrai. Hein. Ce qui n'est pas la même chose. Hein.
Quel rôle social et politique?
Ah ben, c'est évident que le rôle social et politique, quand je mets en scène l'événement ou que je mets en scène La Femme gelée, l'événement, les jeunes filles comprennent qu'il faut surtout, attendez, il faut être, que c'était terrible ces avortements clandestins et qu'aujourd'hui il faut continuer à être vigilante et que c'est très très important et qu'avec La Femme gelée, de comprendre que la notion de mariage, c'est un enfermement pour les femmes, enfin il y a toutes ces notions qui sont contenues dans La Femme gelée, qui était donc femme au foyer et qui était gelée, quoi. C'est-à-dire qui comment se sortir de ça alors qu'elle veut écrire, ou alors qu'elle veut, devenir une personne, C'est tout bête. C'est devenir une personne, comme le dit très bien Simone de Beauvoir. Avant de se marier, avant de faire des enfants, devenir une personne. Déjà savoir qui on est. Bon, bah, tout ça, c'est vrai que c'est de la prise de conscience provoquée à travers les spectacles que j'ai mis en scène. Mais ça, j'y tiens. Ça, j'y tiens. Ça, c'est un, à la limite, quelques des jeunes filles et des jeunes gens entendent ça, la réalisation d'eux-mêmes avant de trouver le conjoint, les enfants, tout ça. Bon, c'est très, très important, ça.
Merci beaucoup. Je vais avoir une dernière question très simple. Et après, si vous voulez rajouter une dernière chose dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas. Ma dernière question, c'était, si vous deviez donner votre définition du matrimoine en quelques mots, ce serait quoi votre définition personnelle à vous du matrimoine ?
Ah, pour moi, définir le matrimoine, ce serait vraiment l'héritage culturel de toutes les femmes qui m'ont précédée, quelles qu'elles soient. Pour moi, le matrimoine, c'est réellement tout notre héritage culturel de toutes les femmes, qu'elles soient ouvrières, lutteuses, écrivaines, plasticiennes, femmes politiques. Et tout ce qui permet à des jeunes filles de s'identifier aujourd'hui, de se projeter, et qui n'est pas dans l'histoire écrite par les hommes, parce que les femmes sont totalement effacées de l'histoire écrite par les hommes. Donc il faut lire absolument Michel Perrault et son Chemin des femmes.
Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode.
Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux.
C'est comme ça que nous ferons entendre la voix des personnes qu'on n'entend pas et qui ont pourtant accepté de témoigner à ce micro.
Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Certaines musiques sont de Unicorn Heads.
Pour cette émission, nous tenons à remercier particulièrement Jeanne Champagne, bien sûr.
Merci au collectif HF Hauts-de-France d'avoir soutenu le projet, ainsi qu'à la Région Hauts-de-France et la DRDFE, la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité. Ne ratez pas les autres actions matrimoine.
À la semaine prochaine !